Ah, la bande dessinée, un art très important dans notre magnifique patrimoine culturel francophone et même mondial, qui depuis très longtemps continue de nous émouvoir, de nous faire rire, réfléchir, triper ou pleurer. Un objet culturel qui peut se savourer n'importe où, d'une terrasse de café à une médiathèque ou de nos chambres jusqu'aux toilettes. Et l'héros ne déroge pas à la règle. Nombreux sont les artistes de bande dessinée à exercer dans notre département, sans parler des grandes villes qui la peuplent. Mais aujourd'hui, c'est du côté de notre arrière-pays, et aussi un peu en dehors, que nous allons jeter un œil. Aujourd'hui, l'humour est à l'honneur. Nous rencontrons Alexia alias Lexi, qui est bibliothécaire à Soubès et dessinatrice, ainsi que son comparse Charlie, comédien, musicien, auteur et marseillais, qui ensemble ont concrétisé leur projet de bande dessinée Marius et Capou, dont un deuxième tome est paru début janvier de cette année. C'est en 2020, année du Covid, qu'est né le collectif Finement Con et par là même leur collaboration pour la création de cette bande dessinée à l'humour osé. RPH vous propose un entretien croisé avec les auteurs, accompagné aussi de Noam Lejeune, chargé de communication chez les éditions Lapin, qui édite les aventures de Marius et Capou. Encore récent dans cette industrie pas toujours rose, ils aborderont avec nous le sens de leur création, quels obstacles les auteurs peuvent rencontrer, ainsi que leurs inspirations et la manière dont ils travaillent. Mais du coup, ça raconte quoi Marius et Capou ?
Alors Marius, c'est un petit garçon qui a, on va dire, entre 8 et 10 ans. C'est un petit garçon qui est poli, qui a sa maman qui est célibataire, le papa est parti tôt. C'est un petit garçon qui a un problème de surpoids et qui va jouer avec ça et qui va utiliser sa chaussette pour pouvoir communiquer dans le monde des adultes.
En fait, ça raconte tout simplement nos injonctions, nos problématiques en fait, d'adultes qui sont vues par le prisme d'un enfant et de sa chaussette. C'est assez drôle parce que ça permet un peu de décaler, de prendre du recul, de se dire que finalement tout ça n'est pas si grave, que de toute façon on va tous mourir à la fin. Donc voilà, il y a pas mal de cynisme, pas mal de choses assez caustiques.
Sa chaussette lui permet d'être très cynique, très aigre, je dirais même.
Mais ça traite beaucoup de parentalité aussi, parce qu'on va suivre la vie de Marius avec sa mère. Donc c'est une famille monoparentale, sa mère... limitant dépression, et lui qui reste sur un mood assez taquin, on va dire, quoi. Qui essaie de remettre un peu des couleurs dans ce monde un peu gris par l'humour, quoi.
Mais ils sont très attachants, ces personnages, je trouve. Il a réussi à créer des personnages qu'on n'a pas envie de les lâcher, quoi. Moi, deuxième tome, là, j'ai envie de continuer, parce que j'ai envie de leur faire vivre d'autres aventures.
Pour moi, le personnage de Marius, on va dire peut-être c'est une extension de moi-même et même de beaucoup de personnes, en fait. C'est un peu ce... Marius, c'est un garçon assez poli, plutôt réservé, qui observe pas mal le monde. Et sa chaussette, en fait, c'est sa face un peu clown, un peu clownesque que j'ai aussi dans mes personnages de théâtre ou autre. Mais disons que sa chaussette, elle va dire en gros ce qu'il pense tout bas et de manière... de manière assez cash, quoi.
J'ai grandi dans les années 80-90. À l'époque, il y avait cette espèce d'humour bien cynique. On avait le droit d'utiliser l'humour pour transcender tous les problèmes, toutes les différences, toutes les tares de l'humanité. Et moi, ça m'a toujours touchée. Et cette chaussette, je trouve qu'elle se permet ça alors que ce petit garçon n'ose pas dire les choses, en fait. C'est ce qui fait que l'un ne va pas sans l'autre. Sans sa chaussette, il n'est plus qu'un petit garçon qui n'ose pas dire dans ce monde parce que de peur d'être critiqué, de peur d'être mal vu. Et vu que c'est une chaussette, de toute manière, une chaussette qui parle ça n'existe pas, donc une chaussette qui parle et qui peut raconter absolument tout ce qu'elle veut.
Et donc, j'adore cette ambivalence du personnage, parce que Marius, il va pouvoir faire parler Capou comme il veut, et puis dès qu'on va l'engueuler, il va dire « Ah, c'est pas moi, c'est Capou ». Et pour lui, c'est vraiment deux personnes bien distinctes, alors que c'est toujours lui qui fait parler la chaussette. Mais je trouve cette ambivalence de personnage assez intéressante, parce que ben, ça nous permet de montrer nos différentes facettes aussi. Et malheureusement, on n'a pas tous et toutes des chaussettes pour pouvoir exprimer des fois de manière décalée ce qu'on ressent, parce que sinon, ben, soit on est mal vu, soit on va en tôle, soit on va en HP, quoi.
Comment est née votre collaboration ainsi que le projet ?
Comme son nom l'indique, le collectif Finement Con, ben, pour ceux qui ne l'auraient pas capté, Finement Con, Finement Confinement, ça a été fait pendant ce merveilleux moment de blocage en fait. Et là, comme pendant le confinement tout était à l'arrêt, ben, je me suis mis à écrire, mais pas écrire des spectacles, écrire des BD quoi. Et donc on a fait sorti pas mal de planches pendant le confinement avec une amie qui s'appelait Élise et qui a préféré ensuite voguer vers d'autres activités. Et donc là je me suis retrouvé avec plein de planches de BD, mais plus de personnes pour les dessiner. Et donc j'ai lancé une annonce. Élise m'a aidé pour ça, une annonce sur les réseaux pour trouver quelqu'un qui voudrait continuer le projet quoi.
Et c'était un hasard total. Un ami qui m'a envoyé un message d'une recherche d'illustratrice. Charlie cherchait une illustratrice parce que son ancienne illustratrice avait abandonné le projet. L'annonce avait dû rester 2-3 mois. Il était en train de fermer toute idée au futur de ce projet. Et au final, je lui ai envoyé un mail en me disant « Bon, je vais quand même tester, on était en plein confinement. »
Je reçois un mail d'une fille qui s'appelle Alexia. Et qui dit « Coucou, bon, t'as dû déjà trouver, mais moi, je serais chaude, j'aime bien ton humour, j'aime bien ton écriture et tout, ça me dirait si jamais ça te dit, quoi. » Et puis j'ai dit « Bah écoute, il y avait personne qui avait répondu, donc go. » Et là, on s'est fait une visio, en fait, j'ai changé le système, on s'est fait une visio, on s'est d'abord parlé pendant une heure et demie, ça a carrément fonctionné. Et là, Alexis, elle me dit « Bon, c'est super, donc là, je lui parle de Marius et Capou. J'avais une idée d'un gamin avec une chaussette qui pourrait un peu... dépeindre ce monde de manière caustique, sarcastique, grâce à sa chaussette, quoi. » Et j'avais cette idée en tête. Et là, je lui parle de ça. Première rencontre, premier rendez-vous, elle me dit « Ah, super, ça serait super génial et tout ça. » Elle dit « Par contre, là, je suis sur un projet BD enfant, jeunesse. Donc là, je suis pendant quelques semaines, voire quelques mois, je vais pas trop pouvoir bosser. Je n'ai pas de problème. Écoute, on prend le temps et tout. » 19h, j'ouvre mes mails et là, je vois proposition. Et là, je vois Alexis qui m'a envoyé 5-6 propositions de personnages, des trucs. J'ai fait, dis donc, ça devait durer 4 mois. Ça a duré 4 heures, en fait. Et c'est parti au quart de tour, en fait. Dès le lendemain, on a commencé à bosser sur la BD.
En sachant que vous travaillez à distance, comment se passe la relation de travail ?
Alors, en général, il m'envoie un storyboard, enfin même plusieurs, parce qu'il a une frénésie de création. Hein. Je lui fais un retour, est-ce que ça m'a fait rire ou non ? Alors, sachant que bon, l'humour est loin d'être universel, il en faut pour tous les goûts. Mais évidemment, si je suis moins réceptive à un gag, je vais avoir moins de... Enfin, la création va être différente, forcément.
Moi, j'ai une idée, un texte, quoi, un strip, parce que le collectif Finement Con, donc nous, on fait du strip. C'est-à-dire que c'est une page, un gag, quoi. Et du coup, voilà, j'ai une idée, je l'écris, je la propose. Alexis, en général, me fait quelques retours en me disant « Ouais, c'est un peu long. » Et une fois qu'on est OK sur le texte, elle part et elle va commencer à dessiner toutes les cases.
Et ensuite, il me dit lui aussi ce qu'il en pense. S'il y a des cases qui ne lui plaisent pas, on communique beaucoup, en fait, sur la création. Donc, en fait, ça se passe très, très bien.
Et quand on est OK, bah, c'est validé. Et voilà, quoi, ça fait une planche. Et après, moi, je m'occupe de tout ce qui est diffusion sur les réseaux, diffusion de la planche, quoi, dans le monde.
C'est génial d'avoir trouvé quelqu'un avec qui travailler. Dans ce milieu-là, c'est tellement difficile de trouver un équilibre. Là, je trouve qu'on on s'est bien trouvé.
Quelles sont les inspirations pour Marius et Capou ?
On a des accointances et tout dans le côté un peu cash, des fois des côtés un peu trash, mais c'est pas la même ligne. Pour moi, c'est un mélange, effectivement. Après, on peut pas dire ça ressemble à ça ou ça, mais il y a une pincée de, effectivement, de Calvin et Hobbes, Mafalda. Calvin et Hobbes pour le côté imaginaire, en fait. Hobbes, qui est la peluche de Calvin qui prend vie quand il n'y a plus personne, et on va dire que c'est un peu la chaussette, c'est un peu Capou, dans le sens où c'est un personnage imaginaire qui va pouvoir interagir avec lui. Sauf que Capou, moi, j'avais envie qu'il interagisse vraiment dans la réalité avec les gens, quoi. C'est pas seulement un personnage imaginaire, c'est quelqu'un qui impacte le réel. Mafalda, un peu, des fois, pour le côté un peu politique, un peu social, que j'aime bien traiter aussi, avec toujours du fond. Et évidemment, moi, je pense que ce qui nous relie énormément avec Lexi en termes d'humour BD, ben, ça va être Fab Caro. C'est vraiment autour de lui, je pense, qu'on a le plus d'acquaintance, ce côté, ben, lui qui est le maître de l'humour absurde et en même temps social. C'est ça que moi, que je cherche, c'est que c'est absurde, mais quand on creuse un peu, on dit « Hey, ça raconte des choses quand même ». Tout en ayant un côté assez léger et tout ça, mais quand on ferme le bouquin, on se dit « Ah ouais, quand même, ça parle de ça et ça, je trouve que c'est du génie, quoi, quand on arrive à faire ça ».
Comment se passe la concrétisation d'un tel projet et vos relations avec les éditions Lapin ?
C'est très très long, il faut être accroché. On a monté un dossier de présentation, on a envoyé notre projet à de nombreuses maisons d'édition pour essuyer de nombreux refus parce qu'on n'a pas un nom dans la BD. Et quand on n'a pas un nom, c'est compliqué de rentrer par la grande porte. On a eu de la chance grâce à un petit concours qui se trouvait sur Instagram, qui s'appelle, c'est hashtag FIBD, donc c'est sur le festival d'Angoulême, et c'était proposer une planche d'un gag, je me rappelle exactement, je ne sais plus, mais en gros c'était pour les jeunes talents. Alors l'avantage dans le monde de la BD, c'est que jusqu'à 50 ans, on est jeune talent. Hein. Et en fait, on a gagné ce concours, donc on a été invité à Angoulême par la petite porte. Donc on a pu aller sur place. On a été aussi lauréat d'un projet qui s'appelait Nouvelle Page, qui était organisé par Kickstarter et par l'École des libraires. Grâce à ce projet Nouvelle Page, ils nous avaient sélectionné, je crois, sur 300 et quelques projets. On était 6 lauréats à avoir été sélectionnés. Et ils nous ont accompagnés pour créer notre premier crowdfunding sur Kickstarter. Plus en parallèle, du coup, le passage à Angoulême, où on a présenté aussi nos projets à quelques éditeurs qui étaient sur place. Et puis finalement, c'est les éditions Lapin qui, entre-temps, nous ont répondu. Et on s'est lancé. Et là, le deuxième, c'était un arrangement avec les éditions Lapin aussi, parce qu'il faut avouer que maintenant, les petites maisons d'édition, ils n'ont pas vraiment les moyens. Donc le crowdfunding est un bon moyen aussi de financer un projet. Et donc, pour le deuxième tome, on a lancé sur Ulule.
Plusieurs choses. Déjà, faut venir à la base. Ils sortent beaucoup des BD issus du web. Parce que nous, on fait partie de cette génération qui se sont fait remarquer sur Instagram, Facebook. Et donc, ça s'appelle les webcomics, on va dire. Eux, c'est un peu leur fonds de commerce depuis toujours. Ils éditent des gens qui sortent un peu du web. Sauf que nous, on avait pas mal d'abonnés, mais par rapport au nombre requis, on va dire, aujourd'hui, c'était très peu. Ils ont quand même pris les risques. De nous éditer. Déjà, merci à eux pour ça, parce que de nos jours, tu regardes un auteur sur Insta, s'il a pas 100 000 abonnés, bon, vas-y, on passe à un autre, quoi, parce qu'ils savent très bien que, je sais pas, ils vont vendre à 3-4% des abonnés, donc 500 000, donc ça leur fait vendre, j'ai pas les calculs, mais ils savent déjà en amont, avec tant d'abonnés, combien tu vas vendre de bouquins, donc ça devient une valeur marchande, le nombre d'abonnés.
Ils sont très sympathiques. On peut bien discuter avec eux, il est facile de les joindre. Ils sont quand même plus humains que certaines grosses boîtes à qui on a eu affaire. Par exemple, c'était les éditions Steinkiss, je crois, des grosses boîtes qui, eux, on sent que c'est l'usine, quoi. Je pense que nous, on a de la chance, effectivement, parce que ça reste une boîte à dimension humaine. Mais d'un autre côté, c'est le souci dans ces milieux-là, c'est que vu que c'est une boîte à dimension humaine, ils ont moins de poids aussi dans ce monde un peu de requins, quand même. Donc ils sont moins connus, ils sont moins mis en avant, ils ont moins de budget aussi. Par exemple, là, cette année, c'est la première année où ils arrivent à avoir une place à Angoulême. Mais ça coûte une fortune d'avoir une place à Angoulême. Donc ils n'ont pas pu faire venir leurs auteurs. Et puis alors Angoulême, pendant le festival, même les Airbnb, c'est du 200 balles la nuit, quoi. Enfin, c'est un petit festival de Cannes, un peu dans le même genre, quoi.
Yeah. présent, nous retrouvons Noam Lejeune, chargé de communication chez les éditions Lapin, qui pour rappel édite Marius et Capou, et qui va donc nous présenter un peu la maison, ainsi que de son rôle au sein de ce projet.
On est basé à Villeurbanne depuis 2005. Alors en fait, ça existe sous le format d'un portail webcomic depuis 2001 et c'est en 2005 que FIP, le fondateur, s'est mis à éditer ses premières BD. C'est une maison d'édition indépendante à taille humaine, on est 6 en fixe actuellement. C'est vrai que ça représente quand même un boulot assez conséquent, on a à peu près en moyenne 2 voire 3 pour les gros mois publications. Ça représente un certain volume d'heures effectivement, mais en s'organisant bien, on arrive à faire les choses et à prendre le temps aussi pour chaque auteur, chaque autrice, vraiment de plonger au cœur de leur livre, de le lire, d'essayer de le comprendre. C'est en faisant comme ça, en bonne intelligence, qu'on y arrive.
Peux-tu nous détailler le rôle d'un chargé de communication dans cette industrie qui est aussi la bande dessinée ?
Moi, du coup, mon rôle, en fait, c'est de faire en sorte que la BD soit le plus vue possible, la plus accessible aux gens. Et évidemment, de donner envie de la lire. Pour ça, on a plusieurs moyens. On passe avant tout par nos réseaux sociaux et les réseaux des auteurs et autrices qu'on a. Donc ça passe d'abord par une espèce de promotion, un teasing en amont, où on va d'abord présenter la BD, de quoi ça parle, c'est quoi le graphisme à l'intérieur, le dessin. Et on va aussi s'intéresser au profil des auteurs et autrices en les interviewant. Et en rediffusant ça, et en parlant aussi de ce qui nous a plu en tant qu'éditeur et pourquoi on a décidé de porter ce projet. Et ensuite, ça s'articule aussi autour de la diffusion en librairie. Là, actuellement, les éditions Lapin, on est diffusé France, Benelux et un peu au Canada également. Et bien sûr, on envoie dans le monde entier. Et enfin, par la partie événementielle, c'est-à-dire tout ce qui est aspect dédicace en librairie, rencontre avec le public. Et aussi salon, là, il y a Angoulême qui s'est terminé le week-end dernier. On y était présent avec beaucoup d'auteurs et autrices et on a pu, comme ça, partager avec le public et aussi proposer le plus de livres possible. C'est notre première participation en 20 ans d'existence. Donc, on était très, très ravis de pouvoir enfin participer à ce festival. Ça s'est bien passé. On a rencontré beaucoup de gens. On a organisé beaucoup de dédicaces également sur nos stands. Donc on espère qu'on pourra répéter l'expérience l'année prochaine. Et en parlant d'Angoulême, on espère aussi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu beaucoup de scandales là qui sont sortis sur le festival, notamment vis-à-vis de la gestion des humaines par l'organisation qui exploite Angoulême. Donc on espère que ces soucis vont se régler et pourquoi pas que l'organisation change demain.
Comment le projet Marius et Capou s'est présenté à vous et comment travaillez-vous ensemble ?
Nous, on est d'abord axé sur l'humour. C'est comme ça que la maison d'édition est née en 2005. Donc c'est vraiment dans notre ADN de promouvoir des BD qui se veulent humoristiques. Et effectivement, c'est FIP qui a appuyé le deuxième projet. C'est passé par un crowdfunding parce que, comme on sait, l'industrie du livre est un peu fébrile en ce moment. Donc c'est via un appel au public et aussi un effort des éditions Lapin qu'on a pu mener le projet à son aboutissement. Alors là, du coup, c'est le deuxième tome de Marius et Capou qui est sorti le 17 janvier. Donc j'avais déjà eu l'occasion de pouvoir lire et m'intéresser au premier tome. Donc je partais pas de zéro pour ce nouveau projet. J'avais déjà un peu l'univers, les sujets abordés, leur style à eux aussi. Et enfin, on a pris aussi le temps, au travers de l'interview, de discuter, eux et moi, de prendre aussi un peu le temps en off, voir eux où on était chacun dans leur vie perso, leur projet. Et ils ont pu développer effectivement les thèmes, leurs inspirations aussi pour la BD. Et c'est comme ça qu'on apprend à les connaître et puis à connaître le projet mieux pour ensuite pouvoir bien en parler et bien le défendre.
Nous arrivons au terme de cette première partie d'émission sur la bande dessinée locale, en espérant que cet entretien avec les auteurs de Marius et Capou vous aura donné envie de découvrir leur création. Vous aurez d'ailleurs l'occasion, si le cœur vous en dit, de rencontrer Charlie ce vendredi 21 février de 18h30 à 20h30 à Montpellier, au sein de la librairie Mbungi, pour une séance de dédicace, de lecture théâtralisée et, soit dit en passant, boire un coup. Vous pourrez par contre retrouver le duo Charlie-Lexi à Narbonne au Grand Salon du Livre le 17 et 18 mai pour une nouvelle séance de dédicaces. Vous pourrez bien sûr écouter cette émission en podcast accompagnée de toutes les informations sur Marius et Capou ainsi que les éditions Lapin dans l'article disponible sur notre site web rphfm.org. Radio Pays d'Hérault et RPH Sud vous souhaitent une excellente journée sur nos ondes.